RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice Fenouillère, bonjour.
Monsieur Fradigelli, bonjour.
Nous allons partir aujourd'hui très haut. Et on va évoquer la plus grande déception de ma vie. Il n'y a pas de petits hommes verts sur la planète rouge.
Et oui, la planète rouge, on va en parler. On a vraiment de la chance aujourd'hui. On va le faire avec Francis Rocard, astrophysicien. On le connaît bien, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il coordonne la mise en œuvre du programme d'exploration de Mars. Il a directement travaillé sur les missions Curiosity, ça nous parlera Inside aussi, plus récemment en coopération avec l'ESA et la NASA.
Francis Rocard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, première question basique, presque philosophique, pourquoi est-ce que l'homme a toujours été fasciné par cette planète en particulier?
Parce que cette planète, la planète Mars, est l'objet dans l'univers le plus facilement accessible mécaniquement avec nos sondes, où la question de la vie extraterrestre se pose à l'heure actuelle.
Alors, elle se pose depuis longtemps, cette question. Alors, j'évoquais, avec un peu d'humour, quand même, au deuxième degré, les petits hommes verts. Ça n'est pas du tout ça qu'on va pouvoir trouver sur Mars si on découvre la vie.
Alors, non, pas des petits hommes verts. Ça, on est sûr qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, je dirais, on se focalise sur la recherche de la vie morte et ancienne, c'est-à-dire il y a 3,5 4 milliards d'années, parce que c'est ce qui nous semble plus probable, même si on n'exclut pas que Mars soit aujourd'hui une planète encore vivante, mais certainement pas en surface, parce que les conditions en surface ne sont pas propices à la vie, et donc ça serait en grande profondeur. Et quand je dis grande profondeur, c'est peut-être à l'échelle kilométrique. Or, on est absolument incapable de forer à l'échelle kilométrique aujourd'hui. Donc cet objectif n'est pour l'instant pas vraiment à l'ordre du jour. Mais quand l'homme ira sur Mars, peut-être qu'il pourra s'en préoccuper.
Oui, je pense qu'on va y venir justement à cette possibilité ou pas un jour et dans combien de temps d'y aller et quelle serait l'utilité, qui pourrait être les premiers. Mais vous le disiez à un moment donné, cette planète a pu avoir un visage différent il y a quelques milliards d'années. C'est cette recherche de vie ancienne parce que des choses se sont éteintes potentiellement là-haut.
Voilà, c'est-à-dire que il y a environ 3,5 milliards d'années, plus ou moins 100 millions, on n'est pas à ça près, le Mars était très probablement une planète chaude et humide, où l'eau liquide coulait en abondance. On a des traces aujourd'hui observées de fleuves aujourd'hui asséchés, mais qui, à cette époque, l'eau coulait en abondance. On a aussi ce qu'on appelle des vallées de débâcle. Alors, c'est quelque chose qu'on observe sur Terre parfois, notamment quand il y a des ruptures de lacs glaciaires, par exemple, ça crée des débâcles, c'est-à-dire des phénomènes extrêmement rapides, violents et destructeurs. Et ces phénomènes qui créent beaucoup d'érosion, parce qu'ils sont destructeurs, sont observés. Ça peut couvrir des milliers de kilomètres sur Mars. Et tout ça se passait il y a 3,5-4 milliards d'années. Donc oui, il y a eu beaucoup d'eau liquide à cette époque. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, les conditions thermodynamiques de Mars ne le permettent pas, la pression est beaucoup trop faible, l'eau passe directement de la phase solide à la phase vapeur, mais on pense que la vie a pu être possible à cette époque-là, et donc on recherche ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire des traces à travers probablement des molécules, que ces molécules organiques sont d'origine biologique ou pas. Ça, c'est typiquement une biosignature. Je prends un exemple, vous avez certaines molécules qui sont chirales, ça veut dire que deux de ces molécules sont symétriques dans un miroir, et nous savons que sur Terre, le vivant privilégie une forme gauche ou droite de ces molécules, alors que la chimie strictement minérale donne une proportion de 50-50. Donc si on peut mesurer cette chiralité, nous avons une biosignature, c'est-à-dire une preuve indirecte que oui, des activités biologiques ont existé sur Mars il y a très longtemps.
Alors vous dites qu'il n'y a pas d'eau liquide sur Mars en surface, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en trouver en sous-sol éventuellement?
Alors oui, c'est quelque chose que l'on recherche depuis plus de 20 ans. le radar MARSIS de Mars Express a été fabriqué pour aller sonder les grandes profondeurs, 2, 3, peut-être 4 kilomètres, et dans l'espoir de trouver, parce que les modèles le prédisent, que l'eau, si elle existe à cette profondeur, doit être sous forme liquide. Or, les ondes radar pénètrent très bien la glace solide, mais se réfléchissent très parfaitement sur une surface liquide. Et donc, l'espoir était d'observer un écho en grande profondeur. Pendant plus de 15 ans, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Et tout d'un coup, il y a un an ou deux, si ma mémoire est bonne, ils ont trouvé près du pôle sud, ou du pôle nord d'ailleurs, j'ai un peu oublié, un lac souterrain extrêmement salé. Pourquoi extrêmement salé ? Parce que ce n'est que grâce à la présence de sel que l'eau peut être sous forme liquide à cette profondeur. Donc oui, ils ont réussi à trouver quelque chose, mais c'est pas exactement ce qu'on cherchait au début, c'est-à-dire cette nappe phréatique un petit peu universelle. Celle-là, apparemment, elle n'existe pas.
Par contre, il y aurait de la glace, hein, peut-être, donc pas d'eau liquide, mais peut-être d'eau solide. Et si vous deviez nous faire vivre l'atmosphère, hein, on va dire, et c'est sans doute un mot qui ne convient pas, mais de Mars aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un endroit très froid où on ne pourrait pas respirer, clairement ?
Alors, Mars est un désert glacé, avec des températures typiques de 0 degré le jour et plutôt moins 100 degrés la nuit, donc il faut mettre une bonne doudoune. Et la pression est très faible, c'est-à-dire que la pression est l'équivalent de la pression sur Terre à 30-40 km d'altitude. Donc on a des pressions extraordinairement faibles, notamment les tempêtes de poussière, pour ceux qui ont vu Seul sur Mars, oui, elles existent, mais non, elles ne font pas les effets mécaniques que Matt Whitney en subit des conséquences puisqu'il est gravement blessé. Une tempête de poussière avec des vents de 100 km/h, un astronaute ne la sentirait même pas à cause d'une très faible pression.
C'est ce qui est assez impressionnant. Alors, on cherche de la vie sur Mars, on n'en trouve pas pour l'instant, on a trouvé de l'eau liquide, vous nous le disiez, extrêmement salée, mais est-ce qu'on cherche finalement au bon endroit ?
Ah bah,
parce que c'est grand quand même, hein. C'est grand quand même.
Qu'on peut.
Même si c'est beaucoup plus petit que la Terre.
On cherche pas tel l'ivrogne sous le lampadaire. On cherche partout. Je dirais qu'il y a une grande découverte qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui a été faite par un instrument français financé par le CNES sur Mars Express. Cette découverte, c'est la présence de roches volcaniques altérées par l'eau, ce qu'on appelle des roches sédimentaires, et notamment des argiles et des sulfates hydratés. Et aujourd'hui, toutes les missions qui se posent sur Mars et qui recherchent la vie ancienne se posent sur des sites argileux. Et c'est pour ça que Curiosity, vous savez, ce rover qui s'est posé en 2012, depuis sept années, c'est quand même très long, essaye d'atteindre la strate d'argile. Et cette strate d'argile, il l'a enfin atteint début 2019. Vous voyez, il est très en retard sur son calendrier, il est un peu lent, mais on y est. Et les analyses, vous allez me dire, depuis un an, ça aurait pu être fait, mais c'est pas complètement terminé. Donc les analyses sont en cours et on espère trouver des molécules organiques qui auraient été piégées à l'époque où ces argiles se sont formées, encore une fois, quand Mars était chaude et humide il y a 3,5 ou plus milliards d'années.
Alors est-ce qu'on va pouvoir progresser dans la recherche avant que l'homme n'aille poser son pied sur Mars, ou est-ce qu'on va arriver à une espèce de saturation de cette recherche ?
Non, on a encore beaucoup de bonnes idées dans nos cartons, et notamment peut-être la meilleure idée que les scientifiques ont, c'est d'aller chercher les bons échantillons sur Mars
et les ramener
sur Terre. Or, cette mission, ça fait 30 ans qu'on en parle. Elle coûte entre 5 et 10 milliards d'euros ou de dollars, on n'est pas à ça près. Et néanmoins, elle démarre. Elle démarre concrètement. Vous savez que Curiosity 2, qu'on appelle le rover Mars 2020, qui va partir en juillet prochain, qui est un rover d'une tonne américain, ce rover est chargé de collecter ces fameux échantillons, de les mettre dans des tubes, de fermer les tubes, et tel le petit poucet, de les déposer en petit tas sur Mars. Et ensuite, il y aura une autre mission et qui va aller réculter ces petits tubes et pour les ramener sur Terre. Donc c'est une énorme opération qui va nécessiter 3 lancements de fusées depuis la Terre et qui va s'étaler sur 10 ans. Donc on part en juillet 2020, mais les échantillons, il faut attendre autour de 2030 pour les avoir sur Terre.
Voilà, rappelez-nous combien dure le voyage.
Alors, le voyage, c'est que 6 mois. C'est donc pas très très long, mais...
Mais il faut une fenêtre, il faut que Mars soit le plus proche de la Terre possible.
Alors, c'est pas le plus proche. Il faut que la trajectoire soit minimale en termes de distance et surtout d'énergie. Donc oui, on ne peut tirer sur Mars que tous les 2 ans. Donc on va partir en juillet 2020, mais les prochaines missions pour cette mission de retour à l'échantillon partiront dans la fenêtre de 2024, voire de 2026. Et donc après, l'aller-retour, ça dure à peu près 3 ans. Donc si vous partez en 2026, vous allez revenir en 2029-2030.
Quand on dit à côté, je crois que c'est quasiment 76 000, 80 millions de kilomètres.
Oui et non, parce que la distance minimale Terre-Mars, c'est 56 millions. 56, ouais. Mais la trajectoire de la sonde est plutôt autour de 400 millions.
D'accord.
Parce qu'on fait un demi-tour autour du Soleil.
D'accord, pour prendre de la vitesse.
Non, pour simplement se promener de la Terre à Mars. On ne prend pas de la vitesse. On est en orbite autour du Soleil. Ça prend un certain temps. On a une vitesse de 30 km par seconde, qui est la vitesse de la Terre autour du Soleil. Mais on rajoute 2-3 km pour finalement se déplacer vers Mars. Et tout ça, ça prend 6 mois pour faire 400 millions de kilomètres.
Mais là, il y a quelque chose d'intéressant depuis tout à l'heure et c'est passionnant. Et on sait en plus que vous avez les mains dedans hein, dans ce suivi de ces missions sur Mars, Francis Rocard. Quel est finalement l'intérêt d'une mission scientifique? Est-ce que c'est pour montrer, quand on est un pays, qu'on peut y aller, peut-être avant les autres? Je pense aux États-Unis par rapport à la Chine. Et c'est plutôt l'idée de nouvelles frontières que de avancées scientifiques, colonisation potentielle. C'est quoi le vrai intérêt de réfléchir à tout ça là-haut?
Alors je dirais qu'il y a les missions scientifiques, le vrai intérêt c'est de répondre à une question qui taraude l'humanité depuis 5000 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a levé les yeux vers le ciel, c'est sommes-nous seuls dans l'univers?
D'accord.
Donc avec Mars, on essaye d'apporter un élément de réponse sur l'émergence du vivant il y a plus de 3 milliards d'années. C'est quand même important de se dire qu'on n'est pas tout seul, voilà. Ça, c'est l'objectif des missions scientifiques depuis une cinquantaine d'années. On va fêter la 50e mission martienne. Et dans ces 50 missions, j'inclus tous les échecs. Hein. Il y en a eu quand même un gros paquet. Par contre, la finalité de l'homme sur Mars n'a rien à voir avec tout ça. Je dirais la finalité, elle est, oui, la nouvelle frontière. Les Américains ont coché la case lunaire avec Apollo. Maintenant, s'ils veulent envoyer des hommes dans l'espace... l'orbite basse s'est fait depuis 20 ans et je pense qu'il faut passer à autre chose. En tous les cas, c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et donc, la destination normale et naturelle, il n'y en a pas beaucoup, c'est Mars. Et donc, oui, les Américains envisagent d'envoyer des hommes sur Mars d'ici à peu près le milieu de ce siècle.
Elon Musk essaye de les envoyer avant. Hein. C'est du moins ce qu'il a annoncé.
Alors, il annonce, mais je pense qu'Elon Musk est très crédible à court terme. Quand il fait du Falcon 9 et qu'il récupère ses fusées, là-dessus, chapeau monsieur, c'est bravo, c'est un très très bel ouvrage que vous faites. Par contre, quand il nous raconte qu'il va envoyer 1 million ou 1 millier d'hommes sur Mars, je pense que là, c'est complètement du bluff et que c'est plus de la communication que de la réalité. La réalité, c'est que la NASA travaille très sérieusement au problème. C'est une entreprise absolument considérable, extrêmement difficile. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre sur le sujet pour essayer de mettre les idées au clair pour ceux qui s'intéressent. Et donc, moi, je pense qu'il y aura des hommes vers Mars bien avant 2050. Vers Mars ne signifie pas sur Mars. La première mission vers Mars, qui est très facile à faire, et déjà, c'est une entreprise considérable, ça consiste à survoler Mars sans s'arrêter. La mission va durer 18 mois typiquement. Déjà, l'engin que vous allez envoyer, ça va être un train spatial qui va mesurer entre 200 et 300 tonnes. Donc vous voyez que rien que pour ça, il va falloir développer un super lanceur qu'on appelle le Space Launch System, qu'on espère voir décoller bientôt. C'est la Saturne V du 21e siècle. Et aujourd'hui, la NASA a dépensé plus de 30 milliards de dollars sur ce genre d'activité. Vous voyez qu'on est dans des chiffres extrêmement importants en termes de dépenses et on est très très loin du compte avant d'envoyer des hommes sur Mars.
Avant de faire une petite pause musicale, est-ce qu'un pays tout seul a les moyens de financer ça ou il serait intéressant de créer une espèce d'union spatiale?
Alors oui, les Américains ont les moyens. Ça, c'est, vous savez, les Américains, de la NASA consacre 10 milliards par an aux vols habités. Donc, si elle arrêtait l'ISS le plus vite possible, elle pourrait consacrer toute cette somme tous les ans. Donc, vous voyez qu'en 30 ans, ça fait 300 milliards. Donc oui, avec 300 milliards, on peut commencer à envoyer l'homme sur Mars. Mais bien sûr, avoir un partenaire, c'est toujours intéressant sur le plan financier. Et l'idéal, c'est d'avoir un partenaire, vous savez, comme dans le business, c'est du 49%. C'est-à-dire, vous n'êtes pas majoritaire, mais vous êtes majeur. Et le partenaire idéal sur le plan strictement de l'effort technologique, c'est la Chine. Mais ce partenaire est politiquement complètement interdit et les Américains n'ont pas le droit de travailler avec les Chinois. Donc les Américains vont travailler avec leurs partenaires habituels, c'est l'Europe bien sûr, c'est aussi la Russie et le Japon et le Canada. On les retrouve sur l'ISS, on les retrouve sur la Lunar Orbital Platform Gateway, vous savez cette petite station spatiale en orbite lunaire. Donc tous ces partenaires seront présents et peuvent constituer à eux tous environ 30-40%, et c'est un gain substantiel financier pour les Américains.
Allez, on va faire un peu de politique fiction dans un petit moment. On fait une pause musicale avec Gianpaolo Boletti.
All'orizzonte acceso, come un sol argento che una mano marida a un miaio appeso, a un miaio appeso. Così bella terra, due domani a mio, così bella terra, due domani a mio. Si freva l'operaio per un canto amore, la rompe gento fune, la rompe gento fune. Così bella terra, due domani ammirò, così bella. Più rida a campo d'ostino per figlia l'eterno e mi incanta in gioia un sguardo zidellino postunando un quaderno, postunando un quaderno. Così bella terra dove domani ho mio, così bella terra dove domani ho mio. Notte e tenere un affisso che tu pesi a un muro scritta l'inchiostro rosso la struglie quell'abisso d'un tempo troppo puro d'un tempo troppo puro così bella terra due domani non mi ne ho così bella.
Gianpaolo Boletti, la fille su Nanterci FM.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
Et Francis Rocard qui nous emmène ce matin sur Mars. Alors sur Mars, on va pouvoir poser le pied sur Mars raisonnablement dans combien de décennies ?
Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts qui ont fait des études assez poussées sur le sujet. On est plutôt autour de 2050. Après, ça peut être un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. C'est toujours possible un petit peu plus tard. Mais ça veut dire que, comme on dit en anglais, keep the momentum. Ça sous-entend que le projet ne s'arrête pas et se poursuit. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? La décision stratégique américaine est de passer par la Lune. Et ça, c'est une décision qui se comprend dans la mesure où on ne peut pas faire comme pour Apollo. Vous vous souvenez, le discours de Kennedy, c'était en mai 61. Et immédiatement, la NASA s'est mise en ordre de bataille et a tout fabriqué en parallèle. La Saturne 5, le LEM, tous les modules, et 8 ans plus tard, ils y étaient. En fait, sur Mars, on peut pas faire comme ça parce que l'effort technologique et financier que cela supposerait est bien trop important. Donc, il va falloir des étapes, et des étapes qui permettent de développer petit à petit certains véhicules. Quand je parle de véhicules, c'est des gros véhicules extrêmement complexes. Et le passage par la Lune, c'est une étape qui permet d'avancer. Il y en aura d'autres. Je pense notamment à l'orbite martienne, qui va être une étape également importante pour développer des véhicules de transport habité vers Mars, l'insertion en orbite. Et la dernière étape va être de se poser. Et là, vous avez une contrainte extrêmement forte qui est ce qu'on appelle le MAV, le Mars Ascent Vehicle, c'est la fusée qui vous fait redécoller de Mars. Et cette fusée, c'est un engin extrêmement complexe à fabriquer. Et notamment, il va nécessiter très probablement, en tous les cas les calculs le montrent, de fabriquer des ergols à partir de ressources martiennes. Et là, il y a un énorme point d'interrogation. Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'elles existent? Ces ressources, c'est quoi? C'est le CO2, c'est H2O. Avec du CO2 et H2O et beaucoup d'énergie, on peut fabriquer du méthane. Et aujourd'hui, les moteurs de ces fusées sont en oxygène liquide et méthane liquide. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver à fabriquer de l'oxygène liquide et du méthane liquide. Et on fait le plein sur Mars et on décolle.
C'est passionnant. Et imaginons qu'on arrive à se poser, finalement, à réfléchir, à repartir. Ça se fera, vous l'avez dit, sans doute avec les ressources locales. Mais qu'est-ce qu'il va falloir barrer dans notre liste de complexités pour pouvoir y vivre, finalement? Planter des arbres, peut-être impossible. Respirer, compliqué. Amener du vivant autour de nous. Quelle est la complexité d'y vivre là-bas, si on arrivait un jour à s'y poser?
En fait.
Oui, d'installer une base.
Je dirais que vivre sur Mars, c'est comme vivre sur la Lune. C'est exactement le même problème. Vous ne pouvez pas vivre sans un scaphandre. Vous vivez dans des modules pressurisés. Si vous faites des cultures, ça sera à l'intérieur de modules étanches. Et la question, c'est combien d'hectares il faudra pour nourrir en fruits et légumes un équipage de 4 à 6 personnes. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Combien de modules? Donc, il faut rien que pour cultiver des plants, des fruits et légumes. Alors on dit les astronautes seront végétariens. Oui, c'est vrai. Après, il va falloir trouver des protéines quand même. Alors, il y a des idées d'élevage de petits poissons, parce que les poissons, ça peut s'élever très vite, et puis ils pourront manger des protéines de poissons. Voilà, enfin, il y a énormément de choses comme ça. Les radiations sont aussi un problème. C'est un problème qui n'est pas ce qu'on appelle en américain un showstopper, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va empêcher la mission. Mais indéniablement, les astronautes vont avoir des doses de radiation qui dépassent les normes actuelles de l'industrie nucléaire. Vous savez qu'il y a des normes pour les travailleurs du nucléaire, et c'est bien normal, mais on sait que ces doses seront dépassées. Donc il faut très probablement un comité d'éthique qui va devoir se pencher sur la question, comment faire pour autoriser à des astronautes de recevoir des doses que les travailleurs nucléaires n'accepteront jamais. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y aura nécessité de se protéger contre certaines radiations, notamment solaires, mais on sait que les radiations galactiques, qui sont 1000 fois plus énergétiques que les radiations solaires, on ne peut pas s'en protéger, sauf à avoir des boucliers d'1 mètre d'épaisseur, ce qui est évidemment totalement exclu.
Est-ce que du coup, il n'y a pas plus accueillant que la planète Mars, Francis Rocard, vous qui connaissez bien ce système solaire et au-delà?
Alors, la réponse est non et oui. Alors en fait, l'espace est quand même un endroit très hostile. Il y a un lieu dont on parle assez peu, mais qui est effectivement peut-être un peu moins hostile pour des hommes, c'est au-dessus des nuages sur Vénus. puisque on a des, il fait toujours beau, on est au-dessus des nuages, donc il y a un bon soleil. Il fait plutôt chaud. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud quand même. Et la température avoisine les 20-30 degrés. Donc, simplement, c'est un endroit qui est pas très fun, on va dire, au sens, qu'est-ce qu'on va y faire ? Qu'est-ce que vous allez faire au-dessus des nuages sur Vénus, sachant que Vénus ne sera pas visible, sachant que beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif d'aller vers Vénus, mais il n'y a pas d'endroit vraiment, il n'y a pas de paradis dans l'espace pour vivre pour des hommes. C'est quand même des endroits très hostiles.
Et en plus, les autres sont très loin.
Ah oui, Mars est l'une des planètes avec Vénus les plus proches de la Terre. Tous les autres endroits sont beaucoup plus éloignés. Alors après, vous avez quand même les astéroïdes dont on peut dire un mot. Ce qu'on appelle les géocroiseurs, ce sont ces astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre, au prix même parfois de nous tomber dessus. Mais ces géocroiseurs sont relativement faciles d'accès. Encore une fois, c'est pas un problème de distance, c'est un problème d'énergie, mais je rentre pas dans les détails. Mais si cette orbite croise l'orbite de la Terre, on peut arriver à aller visiter un astéroïde sans trop dépenser d'énergie avec des fusées sans trop de puissance. Et il y a eu des projets d'aller sur les astéroïdes avec des missions habitées. C'est un petit peu exotique. Évidemment, vous en faites vite le tour. Hein. L'objet est tout petit, il est d'un intérêt minimal. Au sens où scientifiquement il est intéressant, mais pour l'exploration, aller voir à droite ou à gauche un astéroïde, c'est vite assez ressemblant. Alors que Mars a une beaucoup plus grande diversité de vu son histoire. Vous avez des vallées, vous avez des volcans, vous avez des zones sédimentaires, etc., etc. Donc la richesse d'exploration pour les hommes sur Mars est bien plus importante qu'un astéroïde.
En 30 secondes, est-ce qu'un astrophysicien tel que vous rêve un jour de poser le pied sur Mars, même si vous savez très bien que ce ne sera pas possible?
Alors, oui, d'abord parce que je serai probablement mort et enterré en 2050, mais moi j'ai tendance à répondre à cette question en disant je signe pour un vol d'une semaine sur la Lune, c'est-à-dire c'est ce qu'a vécu les astronautes d'Apollo. Et par contre, Mars, avec 2 ans et demi, 3 ans, je réfléchirai à 2 fois quand même. C'est un peu long.
Merci en tout cas, Francis Rocard, de nous avoir éclairé sur cette merveilleuse planète rouge qu'on peut souvent observer à l'œil nu. D'ailleurs, on voit qu'elle est rouge dans le ciel.
Ouais, ça fait rêver.
Quand on a des jumelles, et mieux, même un petit télescope d'amateur, ça fait rêver.
Ça fait rêver. Merci beaucoup, Francis Rocard. On connaît également votre attachement à la Corse. Donc, on était content que vous soyez virtuellement parmi nous aujourd'hui. Merci.
Merci, Fabrice.
Merci, à bientôt.
Au revoir.